Unitaire, au cœur de l'action des défenseurs de l'environnement. Une émission de Michel Forst et Magali Lafourcade. Produite par Amicus Radio.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Dans cet épisode, nous allons aborder le rôle particulier des associations de plaidoyer qui travaillent sur des enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, ou encore qui sont en lien avec ce qu'on appelle la biodiversité. Nous allons évoquer leur expertise, leur levier d'action, l'efficacité de leurs actions, et nous parlerons aussi des menaces croissantes qui pèsent sur les organisations et les personnes qui les incarnent. Les organisations non gouvernementales, comme on dit les ONG, sont reconnues partout comme un acteur de changement. Elles ont une vraie expertise, parfois très pointue. Elles savent construire des stratégies de plaidoyer. Elles cherchent à se renouveler et à innover dans des méthodes de travail et d'action. L'apport des associations est considérable pour modifier les lois, pour modifier les pratiques administratives. Ces organisations et les personnes qui militent contribuent à l'élaboration de politiques publiques. Et parce qu'elles ont acquis une reconnaissance très forte, les associations de défense de l'environnement, du climat, de la biodiversité sont de plus en plus menacées par l'augmentation des lois répressives et par les restrictions croissantes sur les structures et les personnes. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gaïa Fèvre. Bonjour Gaïa.
Bonjour.
Qui est responsable des politiques internationales au réseau Action Climat France, le RAC, après avoir travaillé dans plusieurs organisations non gouvernementales en Amérique du Nord, notamment. Gaïa, donc peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment les ONG comme la tienne ou d'autres élaborent une stratégie, en fait, comment on définit les cibles, comment on travaille sur les méthodes d'action, etc. Donc c'est la première partie de l'interview.
Avec plaisir. Donc le réseau Action Climat, comme son nom l'indique, c'est un réseau. Donc ça prend beaucoup de temps de coordination, de préparation justement avec nos membres, autant au niveau national qu'au niveau international. En fait, on prépare toute notre séquence, on analyse les moments forts de l'année et on se dit qu'est-ce qu'on veut aller chercher sur quel sujet. Donc, dépendamment de l'expertise de chacun et chacune, on s'organise en groupe de travail avec des spécificités comme la finance, la biodiversité ou encore les sommets internationaux du type G7, G20. Et ensemble, on va développer en fait des positionnements communs. On va se mettre d'accord sur quoi on veut gagner finalement au cours de l'année. Donc, ça prend beaucoup de temps, d'échange, de coordination pour élaborer ces fameuses stratégies et être le plus efficace possible le moment venu. Et au niveau des cibles, je dirais qu'elles sont diverses en fait. On a les différents ministères, donc le ministère de la transition énergétique. On a également toute la délégation interministérielle climat qui va notamment dans les négociations internationales comme les COP, qui sont nécessairement nos cibles. Mais on a aussi finalement les médias, parce que les médias nous aident à faire passer nos messages. On les sensibilise à nos sujets et parfois la finance, c'est pas très sexy, c'est pas très intéressant. Donc faut rendre ça abordable, faut rendre ça compréhensif par tous et toutes afin d'avoir en fait un pouvoir d'action, une capacité à influencer les décisions politiques.
Donc vous n'êtes pas seulement des militants, vous êtes aussi des spécialistes et vous êtes reconnus comme tels par les ministères, les autres spécialistes. Donc il y a aussi un langage ou une technicité de parler de spécialiste à spécialiste pour se comprendre. Et vous êtes reconnus aussi également par ces spécialistes des ministères comme étant compétents.
Tout à fait, ce qui nous amène à avoir des discussions vraiment très intéressantes, à entrer dans le cœur des discussions et des échanges, parce qu'en fait, on a le même niveau de technicité. Donc, on parle d'égal à égal et en fait, on inverse un peu le rapport de force, du moins, on est sur le même pied d'égalité.
Les enjeux sont les mêmes, mais en fait, vous avez des postures différentes.
C'est sûr, c'est certain que les postures diverses, parce que nous, on propose notamment, par exemple, si on prend la COP comme exemple et le paquet énergie, nous, on allait chercher une sortie juste et équitable de toutes les énergies fossiles. Donc, ce qu'on a vu à la dernière COP, c'est un exercice diplomatique qui a amené un langage qui, pour nous, est une transformation, une transition, mais qui ne permet pas des réels changements en profondeur, comme on l'attendait, avec une sortie juste et équitable de toutes les énergies fossiles. Donc, c'est vrai que parfois, on pousse en fait le politique un peu dans ses retranchements, de manière à ce qu'il aille plus loin dans ses positions, notamment dans les négociations internationales pour le climat.
Alors une COP, c'est un enjeu intergouvernemental, donc des négociations entre les États, les spécialistes des États, qui doivent aboutir à un texte qui reflète la discussion, qui n'est pas toujours un texte consensuel. Est-ce qu'il vous arrive également de participer très concrètement à l'élaboration des textes? Je veux dire par là, à fournir pas seulement des éléments de langage, mais des paragraphes écrits en disant voilà comment on pourrait effectivement sortir d'une difficulté, peut-être en introduisant des concepts nouveaux. Vous arrivez peut-être aussi à faire bouger les lignes du côté des gouvernements également?
Ça, c'est la force du réseau international, parce qu'on est plus de 2000 ONG et on est tous en lien avec nos délégations gouvernementales. Et en effet, en amont de la COP, on envoie nos notes de positionnement. On a des rencontres avec les délégations pour expliquer exactement ce qu'on entend par une sortie juste et équitable des énergies fossiles. Et ensuite, pendant la COP, on a encore cette opportunité-là d'envoyer en effet des paragraphes, d'envoyer des textes entiers parfois pour dire c'est important que ces éléments-là se retrouvent dans la décision. Et en effet, on n'est pas juste sur du dogmatisme ou des éléments de langage. On est vraiment sur de la précision de ce qui pourrait se retrouver dans le texte final.
Est-ce que tu as en tête des exemples très, très concrets que tu pourrais donner? Parce qu'en fait, on travaille essentiellement sur la question de la protection des défenseurs de l'environnement, donc sur la question de la participation, de la protection des défenseurs. Il y a peut-être des exemples que tu voulais donner?
Si on pense notamment à la mise en œuvre du fonds pertes et dommages, ça a été un travail qui a couru tout au long de l'année avant son opérationnalisation à la COP28. Et à ce moment-là, il était important d'introduire des éléments en lien avec la protection des droits humains. La société civile, notamment plusieurs membres du réseau international qui sont des ONG de défense des droits humains, on peut penser à Amnesty, Human Rights Watch, qui ont fait des propositions claires d'introduction d'éléments liés à la protection des droits humains. Et malheureusement, ces éléments-là ne sont pas retrouvés dans le corps du texte.
Donc il y a parfois des alliances entre les ONG du climat, de l'environnement et des ONG droits humains pour arriver à un objectif commun.
Je dirais que ces alliances, elles sont même de plus en plus fortes. Par exemple, au niveau du réseau international, Amnesty est membre du Climate Action Network. Human Rights Watch est également membre. En France, on voit des collaborations de plus en plus étroites, notamment avec le milieu climat et le milieu de défense des droits humains, parce qu'en fait, il n'y aura pas de justice climatique sans respect des droits humains, ça c'est clair. Donc on a besoin de travailler en synergie et d'être capable d'influencer en effet les politiques et d'avoir des éléments liés à la protection des droits humains dans les politiques publiques, mais également tous les documents qui sortent au niveau international en lien avec les COP ou autres.
Voilà, c'est quelque chose qui me fait très plaisir, effectivement, de voir cette convergence de lutte entre les ONG droits humains, les ONG environnementales, en fait, qui travaillent sur un objectif commun, d'autant plus que l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu, en fait, le droit à un environnement sain comme étant un droit humain, un droit de l'homme. Et donc, ça renforce encore cette synergie entre les différents acteurs de plaidoyer. Peut-être, est-ce que vous faites également donc une évaluation de l'efficacité de vos actions? Comment est-ce que vous évaluez que vous avez en fait réussi à atteindre l'objectif? Et donc j'imagine qu'il faut tirer des leçons également en termes de établissement de stratégies nouvelles pour faire face à des échecs et aussi tenir compte des succès.
Je dirais qu'en termes d'évaluation, il y a tout ce qui est évaluation quantitative. Donc là, on peut compter le nombre de fois où on a eu cette rencontre avec ce ministre, où on a eu ou bien des échanges avec les délégations interministérielles. C'est peut-être pas le plus intéressant. Je dirais que ce qu'il faut évaluer, c'est l'aspect qualitatif, c'est-à-dire quand est-ce que nos messages se retrouvent dans les documents finaux, par exemple des négociations internationales ou bien d'une loi en particulier sur laquelle on a essayé à faire du plaidoyer. Et il y a aussi tout le volet que nous on appelle control damage, c'est-à-dire que par exemple en juin on a eu un sommet sur la finance climatique à Paris et on avait de grosses inquiétudes qui est beaucoup d'éléments liés avec le secteur privé qui serait un levier qu'on actionnerait de plus en plus pour éviter en fait d'utiliser le levier public et ce qui questionne en fait la qualité du financement et nous on a de très fortes inquiétudes autour de ça. Donc la capacité à faire passer nos messages à exister autour d'un sommet international pour changer un petit peu le langage utilisé. Donc je dirais que nos évaluations, elles peuvent être diverses et variées et il faut faire très attention à ne pas être instrumentalisé en tant que société civile. Ça, c'est un élément aussi qu'on évalue, de se dire, ok, on a participé à cette réunion, oui, on a été présente dans cet espace de travail, etc. Mais est-ce qu'on était juste une coche dans une évaluation qui disait la société civile a été impliquée? Donc il faut faire aussi très attention à ce volet-là.
Oui, tu dis, on rencontre des ministres, des secrétaires d'État, parfois on les rencontre plusieurs fois, donc au fond, est-ce que ces rencontres avec les ministres eux-mêmes, ça a une importance? Les ministres souvent après se racontent, on a rencontré la société civile, on est très à l'écoute, etc. Mais est-ce que c'est ton sentiment? Est-ce que c'est une écoute formelle, polie, ou est-ce que c'est une écoute qui a une efficacité?
Je pense que ça dépend vraiment des sujets. Je vais prendre l'exemple du fonds Pertes et Préjudices, où on était en Égypte à la COP27, et on sentait une délégation européenne qui ne voulait pas l'adoption de ce fonds-là. Et le réseau Action Climat France a senti que la France était aussi un peu bloquante sur le sujet, et donc a fait des rencontres mais très systématiques, notamment sur la fin de la deuxième semaine, qui est beaucoup plus intense, et a vraiment poussé la France dans ses retranchements, et l'a invité à convaincre la délégation européenne de changer de position. Et après, on a vu tout le réseau international se mobiliser avec différentes manifestations, différentes activités de plaidoyer. Et là, on a vu un shift. On a vu l'adoption du fonds Pertes et Préjudices. Donc, je dirais que ça dépend du moment et ça dépend des sujets. Notre capacité à avoir un impact réel et ne pas être juste instrumentalisé ou une case cochée par les ministres.
On peut dire au fond que la création du fonds Pertes et Dommages, c'est un succès auquel vous avez contribué. Jamais on peut s'attribuer totalement la réussite, mais en tout cas le fait d'avoir été là, d'avoir plaidé pour ce fonds depuis longtemps, en fait, depuis presque Paris même, en fait. Hein. C'est un succès, même si le fonds ne répond pas totalement aux demandes de la société civile, c'est quand même un succès auquel vous avez contribué.
Exactement, je pense que la société civile a contribué à l'adoption de ce fonds, c'était un plaidoyer qui a duré 30 ans. Aussi le contexte, il faut se rappeler qu'on était dans une COP sur le continent africain, 3-4% des gaz à effet de serre, une COP de la justice, c'était pas possible de sortir de cette COP-là sans l'adoption de ce fonds-là. Après maintenant, le diable est dans les détails, donc ça va être qui va mettre de l'argent dans ce fonds-là, qui va en bénéficier et comment le conseil d'administration décidera l'attribution finalement des fonds. Donc il y a encore beaucoup de travail, mais en effet la société civile a beaucoup œuvré pour l'adoption de ce fonds. Ouais.
Alors pour les personnes qui nous écoutent, on entend beaucoup parler de ce fonds Pertes et Dommages, mais peut-être en deux mots, qu'est-ce que c'est que ce fonds Pertes et Dommages? À quoi il sert? À quoi il va servir?
En fait, il faut comprendre ce que sont les pertes et dommages. D'abord, on a l'atténuation, c'est la réduction de nos gaz à effet de serre. Ensuite, on a l'adaptation, on n'a pas bien réussi l'atténuation, on doit s'adapter aux grandes chaleurs, aux inondations, etc. Et ensuite, il y a des pertes et dommages, c'est quelque chose qu'on a perdu et qu'on ne retrouvera jamais, à savoir des pertes économiques et des pertes non économiques. Quand le Pakistan est arrivé à la COP27 et qu'un tiers de son pays était sous l'eau, clairement, il n'est pas en mesure de faire face aux pertes et dommages que représente une telle catastrophe. Donc ce fonds-là doit répondre finalement à ces besoins-là. Une fois que atténuation, adaptation n'ont pas fonctionné, on a besoin de cet argent pour les pertes et dommages. Et pour ce qui est non économique, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui perdent totalement leur territoire. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire des pertes de culture également. Donc tout ça, il va falloir trouver un moyen, des moyens financiers pour répondre. Et quand on parle de finances, finalement, il faut comprendre qu'on parle de justice. Et c'est ce à quoi doit répondre ce fonds-là, en fait.
Voilà, donc j'imagine que vous allez suivre ça avec attention et voir la manière dont ce fonds se met en place. Alors, on a parlé beaucoup des dialogues entre spécialistes, des ministères, spécialistes des ONG qui se parlent un même langage. Donc, il y a également un troisième acteur auquel on pense beaucoup, ce sont ce qu'on appelle les lobbies, donc les lobbyistes. Et pour avoir été moi-même à la COP, on a vu à quel point leur poids était important. On a même vu des délégations, y compris des pays de l'Union européenne, avoir dans leur propre délégation des lobbyistes, par exemple de groupes pétroliers, avec le badge officiel de la délégation du pays concerné. On ne donnera pas de nom aujourd'hui, mais en fait on voit bien à quoi on pense. C'est quoi, au fond, la différence entre les lobbyistes et le plaidoyer des ONG qui, au fond, font le même métier, donc utilisent sans doute des techniques qui sont similaires? Qu'est-ce qui vous distingue, en fait, hein?
Je pense que ce qui nous distingue, c'est ce pourquoi on fait notre métier, je dirais, parce qu'en effet, les stratégies d'influence sont les mêmes. Après, les capacités, les moyens financiers et la capacité d'influence politique, parce que, comme je le disais, en fait, il y a des personnes, des lobbyistes qui viennent avec des badges roses et qui ont cette capacité d'influence, d'accéder à des espaces où nous-mêmes, on n'a pas accès. Donc, je dirais que la différence, elle se joue là, en fait, sur les moyens qu'on a pour influencer des positions. Et nous, par exemple, au réseau Action Climat, on est beaucoup plus sur un objectif de garder le 1,5 à portée de main, les aspects de justice qui sont très importants pour nous dans ce qui est mis en œuvre quand on parle d'implémentation de l'accord de Paris. Après, les lobbyistes, ils étaient environ 2500, les lobbyistes des énergies fossiles à la COP28, à défendre du charbon, du pétrole et du gaz propre. Et on voit, quand on regarde le détail du texte, l'influence qu'ils ont pu avoir, notamment sur le gaz, l'article 29 qui positionne quasiment le gaz comme une énergie de transition. Et ça, c'est très, très inquiétant. Ou bien encore les références à la capture de carbone, qui sont finalement des mirages technologiques qui n'ont pas encore fait leurs preuves, mais on trouve une référence à ces mirages technologiques dans le texte. Donc je pense qu'on ne se bat pas à armes égales, mais qu'on a des stratégies communes.
Voilà. On a même vu, et moi j'ai eu des témoignages assez nombreux, de situations dans lesquelles, par exemple, la société civile me disait on n'a pas pu rentrer dans une salle de négociation, mais par contre, il y avait de la place. Les places étaient d'abord réservées plutôt aux lobbyistes qu'à la société civile. Est-ce que tu as été témoin de ce genre de choses?
Personnellement, je n'ai pas été témoin de ce genre de choses, mais j'ai vu des lobbyistes, notamment français, avoir les badges roses et être très présents dans le pavillon français ou bien accéder à certaines salles, oui.
Voilà. Alors peut-être pour être, on a parlé de technique, de lobbying, de plaidoyer, etc. Donc, mais pour être plus concret, est-ce que tu as des exemples que tu peux nous raconter de la manière dont se passent ces négociations au fond? Est-ce que c'est très formel dans une enceinte très très formelle dans laquelle il y a d'un côté de la table les ONG, de l'autre côté les ministères, ou est-ce que c'est beaucoup plus informel? Et ce côté informel, est-ce que ça a peut-être une influence sur le résultat que tu obtiens?
Je pense qu'il y a un peu des deux finalement quand on est dans cet espace de négociation à la COP. On est dans un huis clos. Hein. On est obligé de se croiser à un moment donné ou un autre, et puis on est tous interconnectés, que ce soit par WhatsApp, Signal, etc. Et dans les dernières heures de négociation, les téléphones sonnent beaucoup et on trouve toujours un petit coin de table ou un endroit où se rencontrer. Par exemple, la première rencontre qu'on a fait avec la ministre Agnès Pannier-Runacher, on a trouvé une salle au hasard et on s'est installé et on a discuté directement du package énergie en toute, je dirais, sans floritude. C'est-à-dire que là, on est dans les espaces de négociation, il faut aller vite, il faut faire passer nos messages, il faut qu'on comprenne où sont les points de blocage, quels sont les pays bloquants, qui est-ce qu'il faut encore influencer, où en est la France et où en est l'Union européenne. Donc, je dirais que l'aspect informel est essentiel et très important dans les moments de négociation. Et il faut faire preuve d'agilité et répondre rapidement à son téléphone et trouver un espace pour se rencontrer et échanger finalement.
Ok. Il y a aussi une question que beaucoup se posent. En fait, et tu l'as dit toi-même, donc on a des enjeux différents, des stratégies qui s'adaptent. On voit que les lobbyistes, en fait, on sait d'où ils viennent. Ils sont financés essentiellement par les groupes qui défendent des intérêts privés, donc le pétrole, le gaz, le charbon, la volonté de ne pas mettre fin à ces énergies, alors que d'autres voudraient y mettre fin rapidement parce que c'est l'enjeu mondial auquel on est confronté. Donc, alors ces lobbyistes sont financés par les entreprises, mais vous, les ONG, en fait, qui vous finance? Et au fond, est-ce que le financement que vous recevez a une influence ou non sur la manière dont vous élaborez vos propres stratégies? Est-ce qu'on peut dire que certains pensent que vous êtes aussi manipulé par certains groupes internationaux qui en fait trouveraient un intérêt à apporter des financements aux ONG?
Au niveau du réseau, il y a une variété de financeurs de par la variété des organisations qui sont membres. Et sinon, pour le RAC, on a beaucoup de fonds qui viennent de fondations. L'AFD nous finance.
L'Agence française de développement.
L'Agence française de développement, tout particulièrement sur le volet international par rapport à mes missions. On a également certains ministères qui vont nous financer aussi. Je pense qu'il faut être lucide et capable de poser nos propres limites quand on développe nos stratégies. À partir du moment où le bailleur contrôle votre stratégie, c'est qu'on a perdu un certain mois, je pense. Donc il est important pour nous de poser nos limites et d'être transparent sur ce pour quoi on travaille et ce sur quoi on a des lignes rouges. Donc c'est un enjeu, encore une fois, peut-être d'influence et de plaidoyer.
Et le fait d'avoir des financements de la part de bailleurs multiples, au fond, ça limite le risque, parce que vous n'avez pas qu'un seul financeur qui peut vous dicter une position à tenir, une posture à tenir. Le fait d'avoir des financements venant de plusieurs sources différentes, ça vous donne aussi une garantie que vous ne répondez pas uniquement aux attentes de l'un, mais au fond, vous avez votre propre stratégie développée. Et si elle déplaît à un bailleur de fonds, il peut toujours décider de se retirer, d'autres prendront la place.
Je pense que c'est une bonne manière de le voir. L'équilibre entre les bailleurs, ne pas dépendre principalement d'un seul bailleur, c'est essentiel en effet. Diversifier nos sources de financement, c'est essentiel pour notre indépendance. Et être toujours capable de ne pas adapter sa stratégie en fonction de ce que le bailleur souhaiterait, ça c'est quelque chose sur lequel il faut toujours, toujours travailler.
Gaïa, merci.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Donc la prochaine fois, nous écouterons Katia Martin-Chenu qui nous parlera du secteur privé face aux défenseurs de l'environnement.
Cette émission a été préparée et présentée par Michel Forst et Magali Lafourcade. Produite par Amicus Radio. Vous pouvez écouter librement toutes nos émissions sur le site d'Amicus Radio et vous abonner à ce podcast sur les plateformes d'écoute pour ne manquer aucun épisode.